Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il va falloir qu'il bosse. Je suis déjà content là. Philippe, il a déjà encore convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil. Parce que moi, ça sera demain matin à 6h. Et c'est honteux ce que j'ai aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser.
Entraîneur, formateur, écoute l'after. Les joggeurs, les plongeurs, écoute l'after. En vélo, en scooter, j'écoute l'after. Attaquant, défenseur, écoute l'after. Même Rocco, le grand acteur, écoute l'after. Au micro, c'est Fazer, c'est Fazer.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, avec Florent Gautreau, Mercato, foot anglais, espagnol, allemand à venir dans l'heure qui vient de l'after. Notre ami Fazer qui a publié son magnifique rap de l'after. Il parle de Rocco, ça me permet de... Tiens, petite info. Rocco Siffredi sera présent dans la prochaine revue de l'after. Je ne vous dis pas encore sous quelle forme, mais...
À quel moment qu'on...
Ah bah bientôt.
La prochaine
revue sort mi-février, on s'approche. Donc on va encore attendre quelques jours.
On est trop loin.
Là. Avant,
c'est calé sur l'audit.
Dans une stratégie marketing, là, c'est pas bon.
Ça sort avant ou après PSG Bayern?
Juste après.
Le 15, mais, deux jours après.
Oui, mais 16, là, justement, si tu veux développer une stratégie marketing, si tu dis de quoi ça parle.
Justement, je commence doucement là avec Rocco Siffredi.
Ça commence à donner envie.
Donc on n'en dira pas plus ce soir.
D'accord.
Voilà. Mais je rappelle que la revue qui est sortie juste avant Noël, elle est toujours en kiosque, hein, si vous l'avez ratée. Et dans les librairies. Et sur afterfoot.media, si vous voulez vous abonner. D'ailleurs, il faut vous abonner pour soutenir la revue de l'after, si vous avez envie, hein, bien évidemment.
Il faut avoir envie, et nous, on a envie, on a besoin de soutien surtout.
Exactement. Et avoir toujours plus d'after qui arrivent directement à la maison dans votre boîte aux lettres. Hein, afterfoot.media, n'hésitez pas à y aller. Alors, les résultats avant de parler mercato. Vous dire que Manchester United a gagné 3-0 en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue en Angleterre ce soir. Le Barça s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Roi en battant la Real Sociedad grâce à un but de Dembélé. Tout à l'heure, Fred Hermel nous dira ce qui s'est passé. Osasuna Séville, c'est en cours, c'est la mi-temps 0-0. Et puis en Allemagne, parmi les clubs de haut classement, l'Union Berlin a gagné à Brême 2-1 face au Werder et Fribourg a fait un partout face à Francfort. Voilà, là aussi, on aura Polo avec nous un peu plus tard. Alors, il y a eu des infos mercato partagées tout à l'heure dans Génération After, mais enfin, évidemment, les avis de Walid, Sofiane et Romain, c'est important, mais j'aimerais bien quand même avoir les vôtres sur certains dossiers, notamment sur le cas Cherki, qui fait beaucoup parler aujourd'hui, l'éventualité Cherki au PSG. Tout à l'heure, Nico Jamin expliquait dans le détail les liens qui unissent la famille Cherki à la famille Mbappé. Est-ce que c'est un hasard s'il y a donc cette...
Moi, je ne les ai pas entendus. Tu peux me décrire les liens? Je pense qu'il va y avoir besoin de compléments.
Nicolas Jamin a expliqué tout à l'heure que la famille de Cherki est liée à la famille de Bay. Il y a les liens amicaux quoi, qui existent.
Juste la famille, les familles, c'est tout?
En tout cas, au niveau familial, plus des gens dans l'entourage qui peuvent éventuellement s'occuper des carrières.
Plus un ancien journaliste de l'équipe écarté du journal parce qu'il s'occupait un petit peu trop des joueurs. Et qu'il n'avait pas réellement le droit de le faire, qui est un peu l'homme à tout faire du clan Mbappé, qui s'occupe également des intérêts indirects de Cherki et qui fait le lien. Voilà, il faut dire.
En plus,
après, si tu me fais les gros yeux, je dis pas son nom, mais on peut également. Enfin,
non, bon,
tu me fais les gros yeux ou pas?
Oui.
Bon, ok, tu me fais les gros yeux.
Bah, parce qu'il faut que les personnes puissent venir.
On l'invite à nous raconter sa carrière.
S'il a envie. Hein,
et la évidemment. Façon dont il procède, aussi bien auprès de tel et tel joueur que du clan Mbappé, dont il est un peu l'homme à tout faire, comme je le disais. Et qui bon, fait en sorte qu'on puisse avoir ces discussions-là, alors que, puisqu'on va en parler maintenant pour donner les informations, donc c'est orchestré. Côté PSG par cet intermédiaire, mais aujourd'hui à Lyon, il n'est pas question de laisser partir Cherki. Aujourd'hui, ça c'est.
Mais donc... surtout, moi je me constate quand même qu'il y a une pas une unanimité totale, mais enfin quasiment de supporters de PSG qui disent bah pourquoi en fait.
Clairement. Aujourd'hui, Lyon dit quoi? Évidemment. Après, Flo, je t'ai vu réagir sur Twitter, donc je te laisserai le côté opinion et on en parlera. Aujourd'hui, qu'est-ce que dit Lyon? On ne le laisse pas partir. Maintenant, on sait bien comment ça marche. À partir d'un certain montant, on laisse partir. Donc, si vraiment le PSG fait un coup de folie à la équitiquée à plus de 30 millions, évidemment que Lyon le lâchera. Maintenant, est-ce que le PSG, engoncé dans le fair play financier, peut mettre autant d'argent sur un remplaçant et sur un jeune joueur? Je ne le sais pas. Information, les gens disent globalement que Cherki a un an de contrat. C'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a une clause dans son contrat qui dit que s'il joue un certain nombre de matchs dans la saison, il a une autre année automatique. Il en est tout prêt de remplir cette condition-là. Donc, il aura, Cherki, une année supplémentaire. Donc, il n'est pas à un an de la fin de son contrat, mais à deux. Quasiment factuellement, ce sera dans encore une poignée de matchs, il y sera. Donc, au moment où on se parle, que Cherki aille au PSG, que le PSG ait discuté que par le biais des entourages, on brasse, ok, que Campos, sous la pression du clan Mbappé, se penche sur le dossier, ok, mais c'est un dossier à 30 millions. Campos, qui commence à être critiqué à Celta Vigo, là où il est directeur sportif, qui a quand même au cul un mercato d'été complètement raté. Alors, lui-même l'avait dit. Lui-même avait dit, on a raté le mercato. Il n'a pas besoin de le rajouter, on le constate tous. Mercato raté. Gestion de certains joueurs ratée. Dossier Kimpembe qui va s'ajouter, c'est encore autre chose, on va en parler dans un instant. Tout ça est raté. Campos, il va venir demain, il va dire, je mets 30 millions pour un gamin de l'OL qui a 19 ans, qui s'est pas du tout imposé, qui viendrait chez nous pour être remplaçant. Honnêtement, si vous pensez que ça va...
Tu veux dire sportivement, là, tu parles du sportif.
Sportivement, économiquement, aller s'exposer de la sorte dans un transfert bizarre, j'ai du mal à croire. Je veux bien que tout soit possible dans les transferts, mais à ce jour, je te répète, je vois pas Lyon, sauf, je te dis encore une fois, s'il y a une somme démesurée qui est mise sur la table. Et si le PSG fait ça, alors là, on nagera en plein délire. Mais bon, c'est pas la première fois que ce club le fait. Mais bon, je crois pas.
Ton point de vue avant qu'on accueille Simon.
Mon point de vue, c'est que en fait, ça m'a fait un peu de la peine. J'ai mis que ça me surprenait sur Twitter. Puis après, ça m'a fait un peu de peine de voir que deux gros clubs, deux gros palmarès récents, notamment sur les titres de champion de notre Ligue 1, était sur ce genre de dossier. C'est-à-dire, comme l'a dit Daniel, hein, parce que ça va peut-être pas se faire, et sans doute pas se faire, d'ailleurs, mais de savoir que Campos, dont on a vanté certaines qualités quand même avant qu'il arrive, soit là alors que le PSG a des vrais besoins, derrière, en défense par exemple, et au milieu aussi d'ailleurs, soit sur le dossier d'un joueur, d'un jeune joueur de Ligue 1 très talentueux, mais dont je ne sais pas vraiment s'il explosera au plus haut niveau, soit sur ce genre de profil-là, j'ai trouvé que ça me faisait un peu de la peine pour le PSG, et ça me faisait de la peine pour Lyon, qui n'arrive pas à recruter un seul joueur depuis le début, là aussi avec une cellule de recrutement qui marche pas, de voir qu'il serait éventuellement prêt, même si Olas a démenti, on a bien vu et bien compris tout ça, et on le comprend pour 15 millions, mais quand même, il y a eu des discussions, et effectivement, s'il y avait une somme importante, il serait prêt à le lâcher. Je trouve que c'est assez symptomatique. Ouais.
Attention, je précise, Campos ne s'intéresse au dossier que parce qu'on lui dit de s'y intéresser.
Oui, mais peu importe. C'est du temps passé.
C'est dans l'ordre. Ouais. Ça veut dire qu'il y a, dans ce club, des gens qui ont assez de poids pour dire intéressez-vous à ce joueur-là. Parce que tout le monde sait en quelle estime je peux tenir le joueur Mbappé, extraordinaire, tout ce qu'on veut, mais est-ce que pour autant, il doit avoir, avec les gens qui l'entourent, ce pouvoir-là qui est de dire « recrutez ce joueur, faites ceci » et vous verrez que prochainement sortiront une enquête qui n'a rien à voir avec le sujet dont on parle, mais dans lequel des propos clairs de la maman de Kylian qui dit au PSG « je fais ce que je veux », même si elle ne le fait pas réellement, elle peut le penser. C'est problématique dans la gestion de ce club. En tout cas, c'est problématique qu'on dise tiens Campos, tu veux pas regarder machin si c'est possible tout ça. Ça veut dire que le club fonctionne très bizarrement.
Oui, mais ça on le sait qu'il fonctionne bizarrement. Oui, t'as raison de leur expliquer. Mais voilà. Moi, sportivement, je trouve que quand tu lis ce genre d'infos à 5 jours, 5-6 jours de la fin du mercato d'hiver, où tu n'as pas entendu d'autres infos capitales qui concernent le premier club de France, sportivement le PSG. J'étais surpris, choqué, entre guillemets. Après, j'étais choqué pour les Lyonnais. Mais après tout, si c'est pas le cas, s'il ne part pas, on va pas taper sur les Lyonnais. Je dis juste que si tu es du côté lyonnais et que tu apprends ça, en plus de Malo Gusto, et alors que tu n'arrives pas à recruter, c'est un problème. Néanmoins, sportivement, c'est à peine ironique ce que je vais dire, ça m'a pas totalement surpris sur un plan technique et sur le plan du foot d'avant et du foot d'après, comme on aime à le définir. C'est-à-dire que ce joueur qui quand même ne fait pas, n'est pas dans le style du foot moderne, tu sais, à courir énormément, à grosse intensité, qui est un joueur technique, on va dire peut-être presque plus à l'ancienne, ça colle effectivement plus avec le profil du PSG actuel et de ce style de jeu que avec les équipes comme on en connaît à l'OM ou à Lens. Et c'est vrai que c'est assez étonnant et plutôt marrant de voir que ce PSG de sénateur, là, en ce moment, surtout celui qu'on a vu depuis la trêve, cherchait à recruter un joueur qui effectivement est très fort techniquement, mais dont on a vu aussi que parfois il n'avait pas encore la volonté de faire tous les efforts nécessaires. Donc c'est aussi intéressant de voir que sur le profil, ça fait peur, quoi, si tu veux, de voir que sur le profil tu t'intéresses à ce type de joueur, même si évidemment il fait plutôt une bonne saison là depuis quelques semaines avec l'OL, et que à mon avis il a tout intérêt à progresser encore et à éclore avec l'OL plutôt que de partir au PSG pour être un second choix et aller sur le banc.
Simon est là au 32-16, supporter parisien. Salut Simon.
Bonsoir messieurs. Bon Daniel, pour la première fois, je vais être d'accord avec toi. Et moi, je vais aller plus loin, parce que je sais que t'aimes les formules. Moi, je pense que clairement, le dossier Cherki, c'est une mascarade. Une mascarade au pays de Disneyland, du PSG du moment. C'est simple, je pense que c'est pour fragiliser l'OL, c'est tirer sur l'ambulance, parce que l'OL, en ce moment, c'est une catastrophe. Donc je pense que...
Est-ce qu'ils ont besoin de ça, franchement?
Non, je suis pas certain que le PSG ait besoin de tuer le 8ème.
Oui, non, là, vraiment ça, non. Mais,
pour moi, depuis que Laurent Blanc est arrivé, Cherki joue énormément et joue bien. Donc, le fait de s'intéresser à Cherki, c'est de dire, ok, le seul joueur de l'OL en ce moment qui joue un peu, qui a le niveau de Ligue 1, voire potentiellement de Ligue des Champions, c'est Cherki, on va s'intéresser. Sauf que, moi, je trouve ça absolument détestable. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de joueurs du vivier du PSG, formés au PSG, qui ont un niveau aussi bon, voire meilleur que Cherki en ce moment. Et on l'a vu cet hiver, puisqu'ils en ont signé deux, des juniors en contrat pro. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Mm-hmm. Je crois que c'est deux joueurs. Donc, pour moi, le sujet, il n'existe pas, c'est une mascarade. C'est-à-dire qu'il y a un beau vivier au PSG, il faut faire monter les jeunes. Cherki, qui reste à l'OL, tranquille, que Laurent Blanc fasse un peu monter. Voilà, le sujet n'est pas là. Le sujet, il est plutôt sur... Arrêtons, on est à 5 jours de la fin du mercato, 6 jours, 7 jours. Le sujet n'est pas là, le PSG n'a rien fait. Ils ont sécurisé leur star, ils ont massé, ils les ont envoyés en voyage, en NBA, d'un côté, à la plage de l'autre.
Maintenant, à la montagne.
Il faut les gagner avec des champions. Le sujet, Cherki, c'est pour moi, c'est anecdotique, c'est mascarade. C'est un écran de fumée pour masquer le sujet Kimpembe sur les réseaux sociaux, etc. Maintenant, il faut se concentrer sur avec des champions. Le sujet, il est là. C'est pas le sujet du mercato. Il n'y a pas besoin de recruter au PSG. Alors,
puisque tu parles du capitana, voilà. Là, il y a quelques infos. Hier soir, Flo et Daniel ont donné leur avis, mais il y a une petite info du jour quand même. Le PSG a apporté aujourd'hui ce qu'on appelle un éclairage sur la hiérarchie. Donc, je vous la livre. On explique que Marquinhos est capitaine et que derrière lui, il y a 4 vice-capitaines. Attends!
Quelle guignolade!
Il y a Kimpembe, Verratti, Ramos et Mbappé. Et qu'en cas d'absence de Marquinhos, la décision revient au coach de nommer ponctuellement le porteur du brassard parmi ses 4 vice-capitaines.
Non, mais est-ce qu'on se rend compte de la guignolade?
C'est qui les 4?
Kimpembe, Verratti, Mbappé, Ramos.
Voilà.
Est-ce qu'on se rend compte du ridicule dans lequel sombre ce club?
Quatrième vice-capitaine, est-ce que c'est pire que troisième gardien à la Coupe du Monde?
Qui soi-disant devait être géré, qui soi-disant avait affronté et surmonté une révolution l'été dernier grâce au duo Campos-Galtier. Galtier qui n'a pas été foutu de dire dans les yeux à Kimpembe qui lui retirait ce statut de vice-capitaine. Dans la foulée, Kimpembe a fait ce post sur Twitter... qui était franchement une réaction.
Oui, apparemment, Kimpembe n'est pas au courant de la version qu'a donné le club.
Je viens de te dire qu'il n'a pas été foutu de lui dire en face. Comme il n'a pas été foutu de dire en face au début de la saison qui était le tireur de pénalty numéro 1. C'est ça. Le soi-disant grand coach qui a tout révolutionné, qui allait faire, selon certains médias, beaucoup mieux que tous les prédécesseurs. Ben voilà où on en est aujourd'hui. Donc, dans cette situation grotesque, Kimpembe s'est fâché. Je pense qu'il ne fera plus confiance au coach, après ce qui s'est passé. Parce que les gens croient peut-être que c'est ce qui semble être des enfantillages, ça n'a pas d'importance dans un vestiaire. Oh, qu'ils se trompent.
Ah bah oui. Ce genre d'affaires-là, c'est des bombes à neutrons.
S'ils savaient à quel point ce genre de petits détails, qu'ils se disent juste un exemple qui n'est pas une caricature. Quand on m'avait dit un jour, en parlant de l'OM il y a plus de 10 ans, une affaire de sac à main de femmes de joueurs en tribune avait déclenché un schisme dans le vestiaire. Alors imaginez si un statut de vice-capitaine, ça peut flinguer un vestiaire. Il faut vraiment se dire qu'on n'est pas dans un monde que nous, on connaît. Quoi. Bon, enfin bon. Non, un sac à main qui coûtait plus cher. Il y avait une femme de joueur qui avait un sac à main plus cher que l'autre. L'autre avait piqué une crise. Ouais. Pourquoi, elle a un sac à main qui coûte tant par rapport au mien? Ça veut dire que son mari touche plus d'oseille que moi. Bim, bordel dans le vestiaire. Parce que son salaire était pas voilà. Bon bref, c'est vieux, mais c'est pour
peut-être
dire.
En fait, il aimait plus sa femme, donc il lui a fait un plus beau cadeau.
D'ailleurs, c'est étonnant. C'est étonnant.
À un certain prix de sac à main, c'est étonnant. C'est pas uniquement l'amour qui permet de l'acheter. Hein, je te préviens.
J'entends bien.
Il y a des prix de sac à main, mon vieux. Juste avec l'amour, tu l'achètes pas. Hein. Enfin bon bref. Donc évidemment,
c'est ça. Un sac à épaule. D'ailleurs, on a vu la compagne de Florent l'autre jour. Je sais pas si t'as fait gaffe.
Ah, j'ai pas vu la compagne.
T'as pas vu le sac à main?
Pas vu. Non.
Ah, franchement, je suis étonné. Non.
C'est moi qui lui ai offert, je sais pas.
Elle a pas un sac à main qui dépasse les 5 chiffres quand même. Non.
5 chiffres, non.
Non, pas 5 chiffres. Non. Non. Bon, bref.
Bon, déjà, qu'un sac à main qui dépasse 5 chiffres existe,
non, je pense qu'elle a un chèque.
Je sais, mais c'est fou.
Alors, figure-toi.
C'est fou.
Dans la boutique Dior.
Comme une montre à 50 000 boules, c'est fou aussi.
Je suis allé dans la boutique Dior.
Les montres pour les footballs, ça se tichit.
C'est fou, pardon.
Je suis allé dans la boutique Dior à Noël et je me suis fait présenter, sortir de la vitrine un sac pour mettre son petit chien qui en plus fait office de sac à main.
Ouais, ta femme avait un petit chien et elle voulait.
Bah, on a un petit chien, mais c'était pour les enfants. On s'est fait présenter pour se marrer, quoi, puisque on va prendre.
Pour se marier, il se présente un sac à main pour que son chien rentre dedans.
Parce que c'est magnifique.
Bon, et donc, il était à combien le petit sac à chien?
Il était à 5 chiffres.
Ouais.
Eh oui. Lui était à 5 chiffres. Celui de ma femme, c'est plus à 5 chiffres, mais avec 2 chiffres après la virgule. c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Bon, donc, revenons au bordel du PSG et à ces crises-là. Et qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Oui, que c'était géré. Que le statut de vice-capitaine. Oui, donc aujourd'hui, visiblement, ils nous font croire qu'ils ont remis de l'ordre dans tout ça en inventant une histoire de 4 vice-capitaines. C'est totalement ridicule et grotesque parce que faudra quand même aller dire maintenant à Mbappé. Au fait, Kylian, je me suis gouré, hein, tu n'es que dans le pool des 4 vices. Et quand Marquinhos n'est pas là, je choisirai au dernier moment. Mais si c'est Mbappé qui est choisi et pas Kimpembe la première fois, bah c'est mort. C'est mort.
En fait, il se pose la question, Galtier, à chaque fois, je sers quel vice?
Mon Dieu.
Je remercie Simon au 32-16 qui nous a amené le débat PSG sur la table, enfin qui a rebondi sur le débat PSG. Alors, parmi les infos mercato du jour, il y a une nouvelle fois le feuilleton Mofi Dieng. Donc vous avez suivi ce qui s'est passé, ça a été expliqué aussi dans Génération After tout à l'heure. Donc Mofi, lui, préfère Nice. Du coup, le pauvre Dieng qui était à Lorient pour sa visite médicale, il m'a dit « Hop, tu la fais pas, tu rentres ». Donc voilà la situation. Donc Marseille se retrouve assez. Ça peut. Alors je sais pas comment l'interpréter. Enfin, un joueur qui préfère, quand on voit la dynamique des clubs actuellement, aller à Nice qu'à Marseille, ça interroge. Ou alors ça veut dire simplement qu'il y a un salaire x2 ou x3 à Nice plutôt qu'à Marseille. C'est comme ça que je l'interprète moi.
Ah, ça,
ou une prime pour l'agent x2 x3 à Nice plutôt qu'à Marseille.
Ça il peut pas en être autrement. Ça c'est sûr que si
que sportivement l'intérêt de Mofi,
si vraiment ça se fait comme ça, alors
pourtant,
que je disais
on aime bien l'OGC Nice qui est un
je disais encore
club,
hier que Longoria réussirait son coup. Si je me trompe sur cette affaire-là, que Longoria y arrive pas et qu'il va à Nice.
Ah mais le joueur a dit à Longoria qu'il voulait aller.
Ouais,
à Nice.
Ouais, bah écoute oui, ça peut pas être ça doit forcément être deux fois le salaire, hein. Ça peut pas être autrement.
Bon. Pendant ce temps-là, Karl Toko Ekambi, va aller à Rennes, alors qu'il voulait donc dans un premier temps aller à Celta Vigo. Voilà. Alors peut-être que Genesio a fait la différence, est-ce qu'il le connaît. Lyon a trouvé un accord avec les Bretons, donc un prêt payant de 1,5 million d'euros.
Si Genesio fait venir Toko Ekambi, ça veut dire que, enfin, il a des joueurs un peu profil comme ça là. Ça veut dire qu'il y a des mecs sur qui il compte plus en tout cas. Parce que dans un 4-3-3 où ça veut dire qu'il le met en haut à gauche avec.
En fait, ça va l'obliger à
Guiri, Bourigeau.
Oui, ça va
l'obliger. Il va recentrer Guiri qui a du mal à être un vrai neuf.
C'est ça le problème. Et c'est ce que
c'est
j'ai l'autre
jour. Problème, je pense. Moi,
je pense que en fait, Toko Ekambi,
vous le pensez titulaire.
Arrête. Ouais. Non, bah,
il y a quand même qu'il y a une attaque qui tourne quand même.
Oui, mais Kalimuendo n'étant pas là pendant un mois, parce qu'on a appris d'ailleurs au passage que Tcheka, c'est sans doute la saison est terminée pour Tcheka au passage aussi.
Ils ont des galères un peu.
Terrier, bon, c'est out. Tcheka, c'est out. Kalimuendo, il m'en manque un. D'ailleurs, je crois qu'il y a un 4. Ah bah, Lorenz Assignon, on a appris que le jeune Assignon qui était rentré contre le PSG là récemment est blessé 2 à 3 mois également. Blessure longue durée et qui ne sera pas remplacé a priori, parce qu'il y a des solutions en interne. Mais c'est vrai que le profil du 9 qui avait été réglé, on va dire, avec Laborde quand ça tournait bien, avec Kalimuendo qui fait plutôt une bonne arrivée au Stade Rennais, même s'il y a eu des moments un peu moins bons. Semble être réglé parce qu'ils estiment que Toko Ekambi, tu pourrais aussi, dans un système éventuel, tu peux aussi le recentrer, mais il va jouer à gauche plutôt. Et donc, dans ce cas-là, c'est Guiri qui est meilleur quand il est aussi sur un côté, qui va sans doute, en attendant que Kalimuendo, jouer dans l'axe. C'est pour ça que je trouve que le profil, certes, ça correspond parce que c'est un joueur qui marque quand même des buts, qui a, comme disait Daniel l'autre jour, avec ses histoires d'orange et de jus, qui a quand même des bonnes séquences, qui va se remettre à l'endroit parce que le contexte, comme Genesio, voilà, le côté, les anciens Lyonnais qui se refont la cerise en Bretagne. Mais factuellement, je pense qu'effectivement, un vrai neuf aurait été presque plus logique pour permettre à Gouiri de rester sur son côté, sachant qu'en plus Kalimuendo va revenir dans un mois.
D'autres infos mercato dans quelques instants dans l'after et Julien Laurence pour nous expliquer la frénésie du mercato anglais actuel. L'after revient à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h21, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Julien Laurence est-il parmi nous? Julien arrive dans un instant. Ça me permet de vous glisser 2-3 petites infos mercato encore. Négociation intense ce soir entre Lorient et Lyon concernant Romain Febvre, qui pourrait donc retourner en Bretagne. Lille également s'intéresse à Febvre. Comme on dit dans le milieu du mercato, Lille est en embuscade.
Voilà. Pareil, profil. Il a un peu le profil foot d'avant, Romain Febvre.
Ah bon?
Ouais, le profil plus, tu vois, dépositaire du jeu, moins dans la course, moins dans la course que ce que je penserais pour un Lorient. Mais non, Lorient ça peut coller, mais c'est quoi l'autre?
C'est plus avancé avec Lille. Lorient qu'avec Lille là, hein, pour l'instant.
Ouais, ça peut coller.
Bon, Febvre, Daniel, non, intéresse pas rien.
En tout cas, enterrement de première classe pour Febvre à Lyon quand même. Hein.
Oui, il a pas réussi à franchir le palier, on va dire.
Ah oui.
Ça fait partie des dossiers.
C'est un mauvais recrutement de plus.
Mauvais recrutement, j'avoue qu'en arrivant, je pensais pas que ce serait une telle tombe pour lui, quoi. Je sais pas si après il y a pas que la faute du recrutement, il y a aussi est-ce que le joueur entre guillemets a fait ce qu'il fallait, je sais pas. Là c'est en tout cas ça fait partie des dossiers pas réussis.
Petit aller-retour de gardien, Costil. Alors, vous savez que Costil est en fin de contrat, là. Et en fait, il a une proposition de Lille avec une année de plus. Donc, il est plutôt en fin de carrière, Costil.
J'ai pas bien compris l'histoire. En fait,
il est prêt à aller à Lille, sur le banc.
Jardim repart.
Sur le banc. Oh. En gros, pour avoir un an de contrat de plus, en fait.
D'accord. Donc, il lâche Auxerre au milieu.
Fin de carrière, quoi. T'es titulaire à Auxerre, fin de carrière sur le banc à Lille.
Et à Auxerre, on a fait venir.
On est en train d'officialiser l'arrivée d'un gardien roumain qui s'appelle Ionit Radu, international roumain.
Et donc le Donovan Lyon reste numéro 2 a priori, quoi. Je pense à Auxerre.
A priori.
Voilà, très bien.
Prêt sans option d'achat, voilà pour.
Là, tu vois par exemple, ça fait partie quand même du foot moderne. Un gardien qui joue titulaire. Qui fait un choix économique, pour faire simple.
Oui, choix de fin de carrière.
Choix de fin de carrière et qui accepte d'aller ne pas jouer dans un autre club, en laissant son club... bon, voilà. C'est le foot business.
Exactement. Allez, je t'évalue le salaire à, je sais pas, 30 000 par mois. C'est un petit choix...
30 000
Un petit choix à presque 400 000 euros sur une dernière année, quoi. Pour rester sur le banc. Réfléchis.
Oui.
Voilà.
Ouais, tu réfléchis. Tu réfléchis.
Bah,
et... Il était payé au Auxerre quand même.
Oui, bah, bien sûr. Mais là, le contrat s'est arrêté. Et puis une dernière information. Niçoise, Nice va recruter un joueur de 24 ans qui vient d'Istanbul, Başakşehir. Il s'appelle Youssouf Ndayi Chimier. Il arrive à Nice, c'est un polyvalent en milieu de terrain ou défenseur. Voilà, je vous le signale. Julien Laurence est là. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ah oui, Julien, hier on a rapidement évoqué les infos du Daily Mail là, qui parlaient de la volonté de l'UEFA d'essayer d'adapter des points de règlement. Parce que quand ils voient ce qui se passe à Chelsea, là, ils se disent, bah attends, qu'est-ce que ce délire? Les autres clubs anglais râlent, ils disent, ouais, c'est pas légal, là, les longs contrats qu'ils font, parce qu'ils comptent le fair-play financier, ils veulent étaler sur plusieurs années le coût de leur mercato. Après, on se dit, bon, bah, ils ont quand même, de toute façon, ils sont blindés d'oseille, donc est-ce que c'est vraiment ça leur stratégie? Donc, on s'est dit, tiens, et si on appelait Julien pour qu'il nous décrypte un peu ce qui se passe cet hiver en Angleterre, parce qu'il y a là des dépenses pharaoniques, comme d'habitude.
Là, c'est carrément un record qui est tombé. En fait, à chaque mercato, été ou hiver, les records tombent. Et je vais laisser parler Julien, mais après, je dis, mais il faut bien qu'on mesure les conséquences que tout ça va avoir à très court terme.
Alors, Julien, après, dis-nous un peu quelle est la situation là cet hiver.
Alors pour l'instant, et il reste encore une semaine bien sûr dans ce marché des transferts du mois de janvier, les clubs anglais ont déjà dépensé 500 millions d'euros, notamment grâce aux dépenses de Chelsea bien sûr, qui a été le plus dépensier, plus de 200 millions d'euros pour donc Badiachil, Mudryk, Madueke, André Silva, tout ça. C'est pas terminé. En plus, pour Chelsea, qui a quand même fait une offre à 60 millions d'euros pour Caicedo, par exemple, à Brighton, qui a déjà fait une offre à 20 millions d'euros pour Malo Gusto à Lyon. Des offres qui pourraient encore augmenter parce que c'est des joueurs qui veulent absolument recruter maintenant. Donc, je pense qu'on pourrait facilement rajouter entre aujourd'hui et mardi prochain un petit 150-200 millions d'euros à mon avis pour l'ensemble des clubs anglais avec la locomotive Chelsea bien sûr, oui, parce que ce qui est bizarre, enfin bizarre entre guillemets, c'est que sur les 500 millions d'euros dépensés, par exemple Manchester United a quasiment pas dépensé, juste 10 millions d'euros pour Weghorst. Un club comme Newcastle par exemple est encore un petit peu en attente à la recherche. Un club comme Liverpool a dépensé sur Gapco, mais c'est tout. Tottenham vient de prendre Danjuma en prêt, mais c'est tout aussi. Donc tu peux penser que ces clubs-là, surtout à Tottenham par exemple, va encore plus se renforcer, donc dépenser dans les 7 jours qui arrivent.
En fait, aujourd'hui, je pense que la Première Ligue, elle va faire sauter le foot européen. Parce que, d'ailleurs, la plupart des clubs en Europe commencent à s'en plaindre. Tu ne peux plus du tout rivaliser sur le marché des transferts, à savoir que quand ils veulent quelqu'un, ils le prennent. Le football espagnol va en souffrir terriblement et le niveau de la Liga est en train de baisser. Alors on va me dire, oui, le Real a encore gagné la Ligue des Champions. Le Real est en fin de parcours avec sa génération de joueurs qui est en train de vieillir. Et quand il va falloir renouveler complètement l'effectif, on verra que ce sera de plus en plus dur. Pour le Barça, ça a été dur. On ne sait pas réellement où ils en sont au niveau international. Les clubs italiens ne pèsent plus grand-chose et ne peuvent plus rivaliser. Les clubs français, c'est terminé, à part le PSG qui peut un peu se battre sur le marché des transferts. Mais comme le fair-play financier, malgré le pouvoir de Nasser Al-Khelaifi à la tête de l'ECA, essaye de le contourner. Les Allemands, c'est pareil. Ils peuvent plus rivaliser. Donc, quelle va être la solution? C'est en tout cas sur ce constat que la Super League va œuvrer pour essayer de rassembler le maximum de clubs, même des clubs auxquels au début on n'avait pas pensé dans l'Europe du Nord, pour en gros constituer une force, pas d'appoint, mais pour rivaliser avec le championnat d'Angleterre. Parce que
attention, parce que les clubs qui composent la Super League, c'est quand même très important. Si demain c'est la Super League avec la Juve, ok, le Barça, ok, mais aussi Rosenborg, Brøndby et Rovaniemi, c'est quand même pas la même.
On n'est pas obligé d'aller jusqu'à Rovaniemi, mais en fait le truc,
la ville c'est du Père
Noël. En fait le truc, c'est que à terme, même la Coupe d'Europe, je suis pas sûr que ça intéresse les clubs anglais.
La Champions League. Historiquement, c'est pas.
Déjà. Oui. La Champions League, peut-être. Mais tu vois bien que ça a même pas l'air d'être un drame quand ils n'y vont pas. Mais pour ce qui est des coupes en dessous, alors là, je peux te dire que les Anglais n'en ont rien à carrer. la Super League, ils l'ont déjà construite.
Rappelons que Tottenham a quand même réussi à faire un forfait récemment en Coupe d'Europe.
Quand on critique aujourd'hui le projet de Super League, en fait, le premier des constats, c'est de dire que la Super League, elle existe déjà. C'est la première ligue qui va rassembler toutes les forces, toutes les valeurs, tous les joueurs qui vont être pompés de partout dans les clubs. Donc, qu'est-ce que vont faire les autres clubs européens ? C'est pour ça d'ailleurs que la Super League n'est pas morte, que elle continue à que l'organisation qui maintenant a même une tête là, l'allemand là, parle avec les clubs. Ils ont même parlé avec trois clubs en France, hors PSG, et des clubs qui n'ont pas dit non, parce qu'ils voient bien s'il y a, en fait il y a plus de salut.
Quel club ?
Je peux pas le dire. Mais il y a pas de... bon, c'est pas très compliqué à trouver.
Oui,
ils sont pas allés parler à Brest, hein.
Non, mais voilà. Juste j'arrête là. Et évidemment que si par exemple tu es Nice, il dit Nice potentiel économique. Donc on peut supposer qu'il faut,
Lens, exemple, ça dit oui, Nice ça dit oui, Marseille ça dit oui tout de suite.
Attends, ils sont flattés, ils disent tiens, le Super League.
En fait, c'est juste un débouché économique.
Ah bah nous, on s'attendait pas à ce que vous nous appeliez.
Parce que sinon t'es quoi ? T'es le club formateur pour l'Angleterre. C'était le club, et puis dès que t'as un bon joueur, les Anglais vont venir et vont te le prendre. En fait, c'est ça que ça va devenir. De toute façon, d'ailleurs, on le voit à travers les réformes que met en place l'UEFA, aussi bien au niveau de la Ligue des Champions, de la Ligue des Nations. Je crois qu'on va pas avoir le temps d'en parler ce soir, mais t'as vu qu'ils veulent tout réformer dans les qualifs de l'Euro.
J'en ai parlé hier.
Dans la Ligue des Nations. Ouais, mais t'as vu, Ligue des Nations, il y a encore un projet qui a tombé aujourd'hui. Donc, il y a une refonte globale de toutes les compétitions. C'est pas pour rien. C'est parce que il y a une économie qui pousse à une grosse réflexion là-dessus. Donc, ce projet de Super League, clairement, il va revenir et Florentino Pérez ne lâchera pas, Barcelone ne lâchera pas. La Juve va être dans de sacrés emmerdements, hein, parce qu'au-delà des 15 points qu'ils ont perdus, il y a des enquêtes qui vont aboutir prochainement. Ça peut peut-être même aller plus loin. Et ils seront peut-être pas les seuls. Hein. Il va peut-être y avoir d'autres clubs qui indirectement vont être touchés, peut-être même des clubs en France. Donc tout cela vont énormément souffrir. On peut se taper une crise monumentale du football en Europe. Donc il va falloir réagir. C'est pas la réforme de l'UEFA, la dernière de Seferin, avec le système de poule auquel on n'a rien compris, qui va sauver le football européen. Faudra aller plus loin, certainement. Et les Anglais, en battant les records à chaque mercato, en construisant des équipes en plus. Parce que ça veut pas dire que les Anglais vont forcément être beaucoup plus forts, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que quand Chelsea et tous ces clubs qui sont dirigés par des Américains constituent des effectifs à 20 joueurs, 30 joueurs, 40 joueurs, avec des contrats longue durée que l'UEFA va être obligé de retoquer, ça va être le bordel, hein. Rien ne dit que Chelsea va être très fort parce qu'ils sont en train de recruter comme des malades. Ou Tottenham en train de recruter également avec un Conte qui fait que chouiner. Ça veut pas dire que les Anglais vont être beaucoup plus forts, hein. Attention, Manchester a souffert de la gestion des Américains. Ils commencent seulement maintenant à redresser la tête. Moi, je vous dis juste, le football en Europe est face à de très sérieux problèmes qui vont nécessiter de beaucoup de réformes et de repenser le football en Europe.
Oui, Julien.
Alors, ce qui est intéressant, on en parlait d'ailleurs avec Johan Crochet un petit peu l'autre jour, c'est que les Anglais ont beaucoup d'argent. Lors du marché des transferts estival, par exemple, sur les 5 grands championnats, à eux seuls, ils ont dépensé 49% des dépenses sur le marché des transferts.
C'est incroyable.
Donc à eux-mêmes,
il n'y a pas une économie qui peut supporter un tel système.
Non, mais n'oublie pas non plus, Daniel, que sur les 20 clubs de Première Ligue, 17 perdent de l'argent. Donc en plus, ils ont beaucoup d'argent, ils en dépensent beaucoup, mais ils font pas de profit, ils ont des pertes, ils ont des dettes. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire, Julien, que s'il n'y a pas un contrôle, puisque l'Europe a échoué dans le contrôle, quand ils ont mis le fair play financier, bon, ça a tenu un peu, ça a quand même permis une certaine régulation, mais soit la Première Ligue, qui est capable d'être autonome, met un contrôle du nombre de joueurs, des années de contrat, et se fait son petit bazar à elle, comme elle l'a toujours fait, soit et créer une compétition et une institution en Europe, qui met, d'ailleurs, c'est ce que veut faire la nouvelle version de la Super League, c'est mettre des contrôles de salaire, pas forcément, mais de durée de contrat, d'endettement des clubs, de redistribution. Ils veulent mettre énormément de contrôle parce que là, ça frise le n'importe quoi, là, ce qu'on voit.
Mais bon, les contrôles en Angleterre, dans le pays du libéralisme, ce sera compliqué. Pour revenir sur ce que disait Gilbert tout à l'heure sur la durée des contrats, bon courage pour que le droit du travail anglais. Donc là, parce qu'en fait c'est ça, on l'avait expliqué, je crois, il y a 15 jours, eux ont le droit d'avoir des longs contrats de plus de 5 ans, contrairement à la France, parce que le droit du travail en Angleterre le permet. Et la règle de l'UEFA dans les lois du jeu dit que c'est 5 ans maximum, sauf si dans ce pays-là, le droit du travail autorise à ce qu'il y ait des plus longs contrats. Les Anglais, bien sûr, voyons ça, ils ont dit, bah oui, nous, c'est ce que vous voulez, 5 ans, 10 ans, mais même avant, dans les années 90, il y a eu des contrats de 10 ans, des contrats de 9 ans, bien avant aujourd'hui, bien avant ce que Chelsea fait, ça a toujours été comme ça. Donc, et alors, bon courage pour que, tu vois, pour qu'on impose aux Anglais de respecter cette règle des 5 ans maximum comme les autres. Mais ce qui est encore plus intéressant, ils ont de l'argent, mais ils savent même pas quoi en faire. Ils savent même pas quoi le dépenser. Je pense que là où ce sera encore pire, Daniel, c'est le jour où ces clubs anglais-là seront intelligents dans leurs dépenses, dans leur recrutement. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser n'importe comment pour des joueurs en bois ou pour surpayer à droite, à gauche, le jour où ils le feront intelligemment, où ils auront cherché les bons profils, les bons joueurs, où ils auront des personnes en place qui savent ce qu'ils font, ce sera encore pire parce que là, ils seront vraiment très forts sur le terrain. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, ils dépensent beaucoup, mais au final, il n'y a pas une domination outrancière dans le sens où t'as pas 4 demi-finalistes de Ligue des Champions anglais.
Mais c'est parce que je te dis que c'est le cadet de leurs soucis, le foot européen aujourd'hui.
Non, pas vraiment. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. La première ligue,
tout ça, ils s'en foutent. Un peu la Ligue des Champions, mais pas plus, hein.
La Ligue des Champions, quand même, c'est.
Et encore, parce que t'as des coachs.
Alors, les gars, on va continuer le débat.
T'as des coachs un peu ancienne génération et tout, mais quand ça va passer.
On va continuer le débat, d'autant que Florent s'est pas encore exprimé. 23h35. Pas mal d'avis également sur Direct Studio que je vous lirai dans quelques instants avant ensuite de parler des résultats du soir en Espagne, et en Allemagne. À tout de suite dans l'After.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
Gilbert Brisbois.
23h37, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Julien Laurence est là. Tiens, avant d'accueillir Fred Hermel dans quelques instants, je vous lis quelques réactions sur Direct Studio. Hussein, vous savez, notre fidèle auditeur qui suit de près le championnat turc, qui nous dit « Moi, avant, j'étais contre la Super Ligue. » Donc lui, il se prétend, c'est Fenerbahçe, hein, je rappelle. « Mais je me dis que même dans la Ligue des Champions actuelle, mon équipe n'a aucune chance d'y faire bonne figure puisqu'il y a déjà un gouffre énorme entre les énormes clubs européens et les équipes de seconde zone. » Donc ils se considèrent déjà comme une équipe de seconde zone, en fait, finalement, à Fenerbahçe. Et puis Olivier, qui avait écrit une très bonne contribution pour le site afterfoot.media, site de la revue de l'After, il dit « Ah, la Super League, c'est l'avènement finalement de quoi ? De l'idéal communiste ? Quel plaisir d'entendre Daniel passer à l'extrême-gauche. » Oui, en sens égalité, traitement, et etc. Voilà.
Julien, le 26 août dernier, Ferran Soriano, tu sais à quel point cet homme est important, c'est le vrai patron de Manchester City. Il déclare le 26 août dernier, la Champions League, ça n'est pas la priorité de Manchester City, nous on joue pour gagner la Première Ligue.
Ouais, non, mais après, Pep dit l'inverse, hein. Pep dit, la Première Ligue, c'est ce qu'ils veulent, la Ligue des Champions, c'est ce qu'ils veulent. La Première Ligue, ils viennent d'en gagner 4 sur les 5 dernières années. Ils en ont assez, je peux te dire.
Oui, donc
ils
décident que, accessoirement, cette année, ça peut être la priorité. Puis après, non. Tu vois, on n'est plus du tout dans la réflexion qui était, tu joues ton championnat, tu te qualifies pour la Ligue des Champions, tu y vas, c'est un honneur, t'as envie de la gagner. La Première Ligue aujourd'hui, il y a tellement de force dedans, tellement de clubs que moi je te dis, vous vous êtes créé une Super League à vous, et nous on est là derrière. En plus, tu sais bien que la plupart des clubs français, qu'est-ce qui se dit la plupart du temps, même nous on relaie cette idée-là qu'on entend sur le terrain. Quand t'as un bon joueur, je crois que c'était Eric qui disait ça en rigolant, Dimeco dans Moscato Show récemment, mais il avait raison derrière la caricature. Il dit, oh putain, quand t'as un bon joueur et tout, tu trouves toujours un pigeon en Angleterre pour lui refourguer à 30 à 40 millions. Mmh. Bah évidemment, mais les clubs français, ils sont contents de ça. Ils sont super contents. Donc à peine ils ont la moitié d'un bon joueur que déjà, le gars s'en va. Je rappelle, je sais pas, il devient quoi, enfin, franchement, il faudrait faire la liste des mecs qui, sur 2 ans, sont allés en Angleterre et faire un bilan de ce qu'ils sont devenus. Entre ceux qui sont allés dans des clubs qu'on ne suit plus du tout. On suit pas, nous, des West Ham, des Aston Villa. Eh, c'est rare, à part être un fondu de Première Ligue, tu regardes quoi le week-end? Déjà, t'as tes matchs à regarder. Si tu regardes City, Liverpool un peu, Arsenal qui en ce moment marche fort. Bon, c'est un peu tout, quoi. Mais tous ceux qui vont dans les clubs en dessous, tu les perds de vue. Mais bon, eux, ils sont super contents, ils ont un salaire énorme, ils jouent dans une Première Ligue qui est fantastique, qui est bien emballée, et qui est une sorte de championnat au-dessus de la mêlée, une Super Ligue, à pas d'autre mot, et on les perd de vue tous ces jours-là.
Mais on a vu ce débat-là lors du départ de Boubacar Camara.
Et je pensais à lui quand je parlais.
Tu vois, voilà, on a fait le même avec Thauvin quand il était parti à Newcastle et en plus ça a pas marché. Mais c'est un bon débat. Les Anglais, ils ont une vision.
Fofana qui était à Chelsea là, qui est parti à Chelsea, le tout jeune espoir. Bon après lui, il a eu des problèmes. Mais enfin bon, bref, il y en a eu plein des comme ça.
Après, ouais,
après, alors, après les Anglais.
Ouais. Non, il y a un truc quand même sur ce que tu dis sur les 17 clubs sur 20 qui sont donc déficitaires, qui c'est quand même très inquiétant. Hier, Polo racontait un truc intéressant sur Schalke, Nullfir, club important en Allemagne, qui va tomber. Autant je suis pas inquiet pour les très gros, parce que quelle que soit la compétition européenne qui verra le jour, et comme effectivement eux, ils peuvent s'en sortir. Tu vois, finalement, Haaland, c'est une bonne affaire si tu regardes le prix auquel il a été acheté. Je veux dire, au niveau des gros clubs.
Accident, ça.
Après, Casemiro, je sais plus combien c'était, 80 pour c'était à peu près pour Manchester. Là déjà, bon, c'est important, mais ces clubs-là, entre guillemets, ils sont capables d'assumer, on va dire ça, Darwin Núñez et compagnie, c'est assumable. En revanche, pour tous les autres clubs de première ligue, tout ce dont parlait Daniel à l'instant, est-ce que ça, c'est viable à ton avis, toi, sur la durée? Parce que, certes, la première ligue, on se connaît, les droits télé internationaux, etc., ça fonctionne, mais ce que tu disais sur le côté, on recrute n'importe comment, à n'importe quel salaire. Après, il y a un contre-exemple pour les gros clubs récents, c'est Newcastle, dont on disait que ça allait être n'importe quoi, la gabegie, le machin, et le sportif suit. Donc,
avec du beau jeu en plus.
Ouais, et puis il faut reconnaître que ça marche.
Avec des joueurs, tu sais à quel point on est même parfois déconnecté de la première ligue et de ce qui s'y fait. Honnêtement, tu regardes Newcastle, encore une fois, à part si t'es vraiment expert que tu es, la moitié, trois quarts des joueurs sont pas des vedettes, sont pas des joueurs que tu connais.
Ouais. Mais on s'attendait à ce qu'ils fassent n'importe quoi avec l'argent.
C'est très étonnant.
Mais la question, est-ce qu'il y a un risque pour une partie de ces clubs qui peut-être seront broyés pour certains et d'autres prendront leur place, hein. C'est ça aussi le système, parce que finalement, après tout, on s'en moque, hein. Il y a eu des clubs mythiques à un moment donné dont on n'entend plus parler. Mais est-ce que toi, tu penses qu'il y a un risque économique pour une partie des clubs, mais pas évidemment les plus gros?
Je pense qu'il y aura toujours un propriétaire qui viendra renflouer les caisses quand il y a besoin. Roman Abramovich avait mis beaucoup d'argent de sa poche pour que Chelsea continue à dépenser, à éponger les pertes, ce genre de choses-là. Et je pense qu'il y a... Le truc, c'est qu'ils sont tous aujourd'hui, quasiment tous, on va dire, avec un propriétaire qui est un des hommes les plus riches du monde, plus ou moins, on va dire, allez, pour globaliser. Donc d'avoir ça en soi, c'est contrairement à l'Allemagne, par exemple, qui n'a pas de propriétaire qui peut renflouer les caisses avec son argent à lui, par exemple. C'est beaucoup plus facile. Les Anglais, ils ont une vision un tout petit peu. Déjà, eux, ils disent, ce qui est très anglais, nous, on finance le football européen dans un sens. Les clubs français ont besoin des clubs anglais.
Absolument.
Ont besoin de l'argent des pigeons qui vont aller acheter un mec 30 millions qui joue en Ligue 2 ou dans un bas de table en Ligue 1. Pareil avec les Allemands. Quand tu vois Georginio Rutter, par exemple, qui quitte Rennes pour aller en Allemagne, je crois qu'il était à Hoffenheim, et maintenant Leeds vient de mettre 40 millions pour le racheter. Et le mec, il a marqué un but cette saison. Donc, à un moment, voilà, eux, ils disent, c'est notre rôle. Mais ils disent aussi. Mais quand en 92 il y a cette refonte de leur première division avec la création de la première ligue, à ce moment-là ils ont su vendre leur championnat, ils ont su vendre leur football. À ce moment-là, il n'y avait pas des grandes stars. Bon, il y avait Eric Cantona si tu veux, mais il n'y avait pas des grandes stars, il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait rien du tout. Eux aujourd'hui, ils disent, vous pouvez nous critiquer, Tebas peut dire ce qu'il veut sur l'Angleterre et ça, mais voilà, nous on a fait de notre football un produit marketing qu'on vend aujourd'hui sur la période. Je regardais encore tout à l'heure la période 2022-2025. C'est 11 milliards d'euros. Mais 11 milliards d'euros sur les droits télé domestiques et étrangers. 11 milliards d'euros. C'est incroyable. Merci. Mais eux, ils te disent, mais pourquoi vous n'avez pas vendu votre football comme ça? Les Italiens, Johan nous le racontait, ils ont fait n'importe quoi dans les années 90. Bah, ils n'avaient qu'à le vendre, leur football.
Mais d'ailleurs, c'est un peu l'histoire, enfin, entre guillemets, de la Ligue 1. Avec CVC et la société commerciale qui essaie de créer ça, mais qui en est loin et de ce modèle-là. Enfin oui, mais une pâle copie à mon avis, parce que ce que tu dis et ce qui est très juste. D'ailleurs, je suis retombé sur un passage du bouquin d'Echo. On avait reçu François Ruffin à cette occasion et il parle évidemment de la naissance de la Première Ligue. Et c'est vrai que quand tu repenses, Julien a raison de le dire, à la date. C'est avant l'arrêt Bosman que la première ligue fait ça en 92. C'est Carling, je crois, le premier gros sponsor. Hein, ça doit être ça. Après c'est la Barclays. Et quand tu lis la progression de ça, tu vois qu'effectivement, quelque part, ils ont été des précurseurs. Parce que le fait d'avoir vendu un produit unique un feuilleton. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une série Netflix avant l'heure, les Anglais. Et donc, aujourd'hui, tu as des tas de gens, y compris en France, hein, d'ailleurs, avec les droits qui sont vendus en France, tu as des gens qui sont fans de foot anglais, quels que soient les matchs. Et moi, je regarde beaucoup parce que au hasard, tu tombes sur beaucoup de matchs. Et évidemment qu'il n'y a pas que du bon. Parce que tu vois, il y a beaucoup, il y a de l'intensité très souvent, mais il n'y a pas que du bon.
C'est vrai qu'en plus, ces derniers temps, j'ai vu pas mal de matchs anglais qui étaient franchement pas terribles.
Ouais, alors il y a beaucoup de déchets. Il y a quand même sur les gros clubs, j'ai vu aussi, là, par exemple, avec Arsenal, des trucs. Ouais,
Julien, merci pour cet éclairage.
C'était un sacré match. Mais
là, il reste quelques jours de mercato, donc on fera un bilan à la fin. Ouais,
juste pour finir, c'est vrai quand même que ce feuilleton-là, vendu comme ça, est mis en place dès 92 avec une autonomie financière aussi dingue.
Et avec les clubs qui décident.
Et c'est quand même un modèle absolument unique et qui perdure. Alors après, la question est ça. Est-ce que la bulle, l'explication de Julien est plutôt rassurante, est-ce que c'est une bulle, ça peut marcher, hein, ça peut durer une bulle. Ça peut aussi parfois exploser pour certains.
C'est comme dirait Manu Petit, oui.
Ouais, ça peut aussi exploser parfois, mais pas forcément pour tout le monde, hein. C'est ça le truc. Après, c'est comment tu t'insères dans ou pas dans le foot européen, enfin dans les compétitions européennes.
Merci Julien, bonne soirée.
Merci les gars, ciao ciao.
Dans un instant, Fred Hermel qui d'ailleurs a un mot à dire sur ce débat, et Paulo Breitner pour évoquer les résultats du soir. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h48, Daniel Ariello, Florent Gautreau et Fred Hermel qui nous rejoint. Salut Fredo.
Salut Fred. Hola chicos.
Et Paulo Breitner. Paulo, bonsoir.
Gilbert, bonsoir tout le monde.
Fred, avant qu'on parle du Barça là, et des résultats allemands, tu avais un mot à dire là sur le débat précédent sur la puissance du foot anglais.
Oui, mais ça m'a rappelé une discussion que j'ai eue avec Javier Tebas, le président de la Liga, qui lui reconnaît qu'on ne peut pas lutter depuis l'Espagne contre la Première Ligue. On peut essayer de lutter au niveau international pour les droits TV, mais sauf qu'au niveau, il y a une grosse manne d'argent qui vient des droits nationaux en Angleterre. Et Tebas m'expliquait qu'il y avait 20 millions d'abonnés à la pay TV en Angleterre, et il y en a que 6 millions en Espagne, et ça baisse. Donc voilà, le ratio, il est...
C'est pareil pour les Allemands, ils peuvent plus lutter non plus, hein, même le Bayern a du mal, hein.
Ouais, mais tu vois, mais t'imagines, en plus, c'est très compliqué. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Daniel, que la Super League existe déjà et s'appelle la Première Ligue. Donc, il y a une sorte de terrain de jeu installé en Angleterre avec des propriétaires étrangers, des milliardaires, comme l'expliquait Julien, qui s'amusent sur leur terrain de jeu sur le territoire britannique. Mais voilà, pour les autres, c'est de plus en plus difficile. Donc, heureusement que, de temps en temps, la qualité, parfois pas terrible, de certains matchs en Angleterre laissent espérer que si on travaille bien dans les autres championnats et qu'on offre de bons spectacles, comme celui, pour faire la liaison, qu'on vient de voir là avec la victoire du Barça contre la Real Sociedad en quart de finale de la Coupe du Roi, ben tu te dis que voilà, l'argent ne fait pas tout. La Real Sociedad, qui n'est pas un club qui a énormément d'argent, qui n'a pas beaucoup de stars, mais qui, depuis le début de la saison, a utilisé 22 joueurs issus de son centre de formation, et ben tu peux continuer à faire du bon football sans beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, mais ce débat, de toute façon, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans le football européen, parce que les propres acteurs de moi, ce que je connais, le football espagnol, que ce soit des présidents, que ce soit même le président du championnat, trouvent qu'il y a un gros problème, il y a un déséquilibre qui mène à la perte des championnats européens, hors Angleterre.
Tu parlais du Barça qui a battu la Real Sociedad. Je précise que Osasuna est en train d'éliminer Séville en quart de finale de Coupe du Roi, 1-0 pour Osasuna. Ah oui, dis-nous un mot du Barça qui a but de Dembélé.
Alors Dembélé, quand il joue comme ça, c'est extraordinaire. Franchement, enfin c'est.
Ah, c'est lui qui a légalisé, me dit-on.
Ah bon bah voilà. Quand on aime le football, voir Dembélé partir en contre.
Il jouait pas arrière droit comme avec l'équipe de France.
Non. L'arrière droit c'était Koundé. C'est lui qui lui met une passe en profondeur absolument magnifique. Dembélé.
Bah, en équipe de France aussi, hein, c'était Koundé, oui, Dembélé sur le côté, mais ça donnait pas ça.
Et là, il arrive dans la surface à toute blinde. Il y a une passe possible pour Lewandowski, mais il décoche une frappe. Il retourne la main du gardien d'Alex Ramiro de la Real Sociedad. C'est un boulet de canon. C'est franchement, quand il est comme ça, Dembélé, mais ça te détruit n'importe quelle défense, quoi. Après, c'est tout le travail de Xavi, c'est de faire que Dembélé soit comme ça à chaque match. Mais cette performance de ce soir contre, je le rappelle, la Real Sociedad qui est troisième de la Liga, qui a 75% de victoires toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. C'est vraiment un très très grand Dembélé, et avec un bon Barça qui a joué quand même à 11 contre 10 plus de la moitié du match après l'expulsion de Brahim Mendes. Mais ce Barça-là commence à montrer des alternatives. Et Xavi, qui avant trouvait ça vulgaire de jouer en contre, bah maintenant, comme ça lui rapporte des points, il trouve ça très bien, parce que ce soir, c'est quand même un contre magnifique, quoi. Une passe en profondeur, un mec qui court et qui va mettre un boulet de canon. C'est pas le jeu habituel du grand Barça, mais c'est autre chose. Et c'est très utile pour ce Barça qui est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Et à partir de la demi-finale, ça sera en match aller-retour, alors que jusqu'ici, c'était que des matchs secs.
Marqué de la tête sur un corner, frapper de dehors de la surface, faire un contre ultra rapide, ça fait partie du foot, donc
oui,
mettre dans la boîte quand il reste peu de temps et que tu dois aller à
mais genre c'est pas vulgaire comme
oui, sauf que Xavi Hernandez quand il était joueur, oui, je sais, ça vulgaire.
Non mais c'est un débat intéressant qu'on a eu aussi sur l'équipe nationale espagnole aussi, hein.
T'as
envie de leur mettre des mégaphones, frapper, vous avez le droit de frapper au-delà de 25 mètres.
C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, bon, après en Espagne il y a moins de talent qu'il y en a dans cette équipe du Barça aujourd'hui, parce qu'il y a quelques joueurs qui sont vraiment excellents. Et franchement, Dembélé, ce type-là, il est différent des autres. C'est pour moi la définition de Dembélé, c'est il est pas comme les autres, et cette différence. Bon,
au moins, il s'est bien remis de sa finale de Coupe du Monde catastrophique.
Ah, ça oui. Ça, on peut le dire.
Ça, on s'en souvient quand même de ça.
Après, c'est intéressant sur sa finition ce soir. Alors, ça marche. Je suis d'accord, l'action, elle est impressionnante et elle est efficace.
Si la loupe, on dit, il a loupé un but.
On dit, et on a raison, que Dembélé, dans sa façon de conclure ses actions, dans ses choix de frappe, où il se trouve forcément souvent dans des angles fermés, de par son positionnement sur le terrain, en ne revenant pas sur un pied, sur un faux pied, enfin, voilà. Ben, dans ce cas-là, effectivement, la question se pose sur la frappe, sur le fait de servir quelqu'un, d'avoir une autre inspiration, une autre idée, un crochet supplémentaire, et aussi une zone de pied sur laquelle tu imprimes ta frappe, parce que il y a des fois des choses assez surprenantes, parce que c'est un gars vraiment qui peut être, comme l'a dit Fred, impressionnant dans sa façon d'éliminer
ou louper des passes toutes simples.
Mais c'est ça aussi l'histoire. Et je pense
qu'on migre en Allemagne,
en Espagne, au Barça ou autre. Il doit justement profiter de ce club-là pour aussi progresser là-dedans. Parce que le fait d'éliminer aussi facilement fait que on a l'impression que la partie finale de ce geste, elle n'a pas été aussi travaillée.
Niveau de après migrer en Allemagne pour des Espagnols, c'est classique. Ça s'est beaucoup passé dans les 60 et 70.
C'est vrai. Polo, l'événement ce soir en Allemagne, c'est évidemment Ajorg, hein, qui est devenu un bougeur de Bundesliga, qui va.
Mais je pense que c'est. Alors, je sais pas s'il va réussir, puisque les joueurs achetés. Non, je vais pas ressortir la phrase que lorsqu'on a discuté hier des transferts des joueurs du Racing. Son profil est très intéressant pour Mayence. Et d'ailleurs, il a joué un petit peu contre Dortmund et il a fait le boulot, quoi. C'est donc il y a peut-être quelque chose à faire avec Ajorg, parce qu'il manquait ce type de joueur de Sturmtank, hein, qui fait presque 2 mètres.
Sturmtank.
Oui, un Sturmtank.
Un pivot, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais, les Sturmtank.
La traduction littérale du Sturmtank,
c'est la tour sur le tank.
La tour qui tourne.
C'est la tour sur le tank.
Oui, c'est celle qui tourne avec
le canon.
La tourelle, on appelle ça.
La tourelle. Ouais. Pas mal, le Sturmtank. Qui on a, nous, encore en Ligue 1, comme Giroud?
Mario Gomez.
Giroud, c'est Sturmtank, quoi. Je suis d'accord, c'est bien, ça, on va en trouver des Sturmtanks. Alors, cela dit, Polo,
ça, finalement.
Non, parce qu'à une époque, il y en avait beaucoup. T'avais Sturmtank,
Milik,
gars
c'était
qui
un Sturmtank, Milik un peu.
Ah, pas que.
Bah, le problème, c'est que c'est toujours pas que.
Le plus grand Sturmtank de l'histoire, c'était Yann Colère à Monaco.
Mais cela dit,
Polo, pour avoir vu le match, je sais pas encore s'il a pris vraiment cette place-là tout de suite, parce que je l'ai vu un peu migrer sur la gauche de la surface. Enfin, je l'ai vu un petit peu rôder, errer. Effectivement, il a participé, il a été assez vite dangereux, enfin sur des remises, donc comme tu dis. Mais est-ce que vraiment, c'est évident, il vient d'arriver. Ça manquait encore un peu de placement.
Moi, je déconne, hein, sur Ajorg, c'est évident. Bonsoir. C'est quoi pour toi là, c'est le plus important à retenir de cette soirée de Bundesliga, Polo?
C'est qu'il y a un club effronté qui s'appelle le Bayern Munich et qui résiste encore au plus grand club du monde, l'Union de Berlin, quand même. Quoi.
qui a gagné à Brême.
Qui a gagné à Brême, et dans un classique de ce que fait l'Union de Berlin, lorsque tu regardes la rencontre, t'as pas le sentiment qu'ils sont inférieurs ou supérieurs au club brémois, et à la fin, bah, c'est eux qui gagnent.
Et ils sont deuxièmes, hein, ce soir.
Ils sont deuxièmes, et je peux t'assurer que dans mon worst case, ils finissent cinquième en fin de saison. Et on pourrait peut-être avoir l'une des plus grosses surprises de l'histoire du football allemand d'ici
la fin.
Et
si l'Union de Berlin joue la Ligue des Champions, pour toi, c'est une des plus grosses surprises de l'histoire de la Bundesliga.
C'est l'une des plus grosses surprises, mais bon, je vais pas.
T'as un exemple de club avec un budget comme ça, un peu inférieur aux autres, qui a réussi à le faire? Kaiserslautern, peut-être, à l'époque?
Bah, Kaiserslautern était un des plus grands clubs allemands. Tu sais, puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc c'est difficile. L'Union de Berlin, dans l'histoire du foot contemporain allemand, est la plus grande croissance économique sans ce qu'on appelle le Finanzspritz en Allemagne, c'est-à-dire de dopage financier. Donc en gros, c'est il y a pas de capital pour foutre de l'oseille, quoi. On n'a jamais vu une croissance réelle aussi importante et aussi rapide en 4 ans. Même moi, je suis toujours surpris, tu vois, quand on commence à faire un transfert comme Juranovic à 8,5 millions, alors que le budget était 2022-2023 est à 157 millions, c'est-à-dire que on a en 4 ans le budget a été multiplié par 3. On n'a jamais vu ça. Alors 157 millions, ça reste relativement petit pour la Bundesliga. Mais ils sont toujours en train de superformer. On a rarement vu ça. Il faut peut-être revenir à 1967 et la victoire de l'Eintracht de Brunswick en championnat d'Allemagne. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'oseille, donc c'était, et puis il n'y avait pas tous les flux migratoires de joueurs. Non, très récemment, il n'y a pas grand-chose. Même Hoffenheim, quand Hoffenheim est arrivé, on sait très bien que c'était un milliardaire derrière. Quand Leipzig est arrivé, on sait très bien que c'est Red Bull derrière.
Ouais. Etc. Wolfsburg aussi, pareil.
Wolfsburg, c'est exactement pareil. Donc il y a des surprises comme Stuttgart en 92 ou 2007, mais quand tu vois les joueurs, comme c'était un club formateur, quand tu vois les Mario Gomez qui étaient déjà là dans l'équipe et les carrières qu'ils ont faites, tu vois, là, il n'y a pas de ça.
On est à mi-championnat en Allemagne, hein, 17 journées.
Exactement.
Donc
exactement.
Bayern premier, Union Berlin deuxième et Leipzig troisième. C'est assez, effectivement, étonnant.
T'imagines, Polo, l'année prochaine à Bollard, toi et moi en Ligue des Champions,
c'est
club de Lens, Union Berlin. On va pas être bien, mon Polo.
Le truc,
chapeau 4 et 4, ça pourra pas se jouer.
Je parle des huitièmes de finale, mon ami.
Excuse-moi.
Merci les gars pour ce petit point nocturne. Salut Fred, salut Polo. Bonne soirée. Demain, l'after revient. Demain, tiens, à 22h, un mois après la finale France-Argentine, Georges Quirillo sera avec nous en studio. Georges Quirillo Chavez, notre correspondant à Buenos Aires. Et Georges, attention, hein, parce qu'il arrive en France remonté par tout ce qu'il a entendu à Buenos Aires sur le foot argentin. Donc on va pouvoir un mois plus tard faire le point un peu, on va dire, maintenant que l'émotion est retombée. Après cette finale de Coupe du Monde. Ce sera demain soir à 22h dans l'after, entre autres choses, évidemment. Salut les gars, ciao et à demain.
RMC, l'after foot.